Moi, j'avais une question sur...
Ce que je peux vous proposer, c'est que je prends toutes les questions comme ça, enfin un feu roulant de questions. Voilà, comme ça tout le monde aura pu s'exprimer, puis après j'essaye de me débrouiller.
Vous avez bien montré la redéfinition de ce qu'était un dogme à Concile Vatican II. Je suppose qu'il n'y a pas eu de rétroactivité d'application de cette définition.
D'accord. Oui.
Deux questions.
Oui.
Trois même d'ailleurs.
Ok.
Je vais vraiment. La première, c'est la constitution du dogme catholique a donné lieu à chaque concile à des schismes.
Oui.
Majeur ou mineur. Et moi, ma question, c'est d'abord une question historique. C'est pourquoi les sept premiers conciles qui ont structuré peu à peu le dogme catholique. Puis le Concile de Trente, ça pouvait donner quelque chose de stabilisé. Pourquoi il y a eu trois nouveaux dogmes ces 150 dernières années sur l'Immaculée sous conception, sur l'infaillibilité du pape et sur l'Assomption de Marie? Ça, c'est pour moi, historiquement, quelque chose que j'ai du mal à... Politiquement, je comprends mieux, mais historiquement, dans la constitution du dogme catholique, j'ai un peu plus de mal. Et enfin, est-ce que vous pourriez nous parler, peut-être un peu rapidement, je ne sais pas si on a un petit peu plus, de la gnose.
De la gnose.
Qu'est-ce que c'est?
On n'a pas spécialement prévu une intervention sur la gnose.
Parlons-en d'abord. Si vous avez une santé.
De la gnose. Mais c'est quel est le rapport avec le sujet d'aujourd'hui?
C'est sur l'appropriation, en fait. C'est sur l'appropriation du dogme par... par les croyants, il y a aussi un aspect d'intériorisation qui est extrêmement fort.
La différence entre la gnose, par exemple, et l'interprétation, la compréhension.
C'est ça. Entre la gnose et le rationalisme.
Qu'est-ce que vous avez, comment vous définiriez gnose? Parce qu'il y a, eu un mouvement qu'on appelle la gnose. C'est à ce mouvement que vous vous référez?
Oui.
C'est un mouvement très ancien.
Oui, par Boileau, je crois.
Alors, Wikipédia. Pardon? Est un concept physico-religieux selon lequel le salut de l'âme passe par une connaissance, expérience ou révélation directe de la divinité et donc par une connaissance de soi.
Ok, alors vous faites référence à ce mouvement du 1er, 2e, 3e, 4e et 5e siècle, parce que ça a duré à peu près, ça a duré assez longtemps. C'est à ça que vous faites référence?
Oui, parce que par la constitution de dogme, la référence à l'expérience personnelle est quelque chose d'assez important.
D'accord.
Dans l'Église catholique.
Bon. J'essaie de me débrouiller avec cette question. Et la troisième, c'est...
Non, c'est ça. C'est pourquoi des schismes? Pourquoi trois nouveaux dogmes récents?
D'accord.
Et,
ok, ça y est, j'y suis. D'accord. Très bien.
J'avais une question.
Oui.
Quand on comprend le cercle, enfin le fait qu'on y revienne pour un gain interprétatif, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément lire tous les textes chronologiquement?
D'accord.
Non.
Quel est l'intérêt?
D'accord.
Une technique, on a l'autre jour eu un débat avec le doyen de la faculté protestante qui nous disait le grand problème avec les protestants, c'est qu'on ne peut plus revenir dans la discussion parce que le dogme, on ne peut pas revenir en arrière. Donc vous avez un tout petit peu évoqué le sujet, mais pourrait-on imaginer de revenir dans une discussion avec nos amis protestants sur le dogme de la pénibilité pontificale ou de l'assomption, etc.
D'accord.
C'est parfait parce que ça fait la parfaite résonance avec ma question. Vous avez évoqué la dimension de l'infaillibilité dès lors que c'était un dogme reconnu.
Oui.
Mais je ne comprends pas comment vous conciliez cette dimension d'infaillibilité avec l'exigence de l'appropriation personnelle qui suppose donc une totale liberté. Comment est-ce qu'on peut être libre face à quelque chose qui n'est plus discutable?
D'accord.
C'est la première question, et du coup, derrière la deuxième question, cette fois-ci de mise en pratique, parce qu'on est bien d'accord, on a fixé une règle, on a fixé un truc, mais la règle, elle n'a de sens que si elle est appliquée.
Oui.
Donc, qui applique? Et du coup, est-ce qu'en appliquant la règle, on n'est pas d'ores et déjà retombé dans le débat interprétatif, et donc on ne résout rien, et on retombe dans un cercle sans fin?
D'accord. Très bien. Ensuite.
J'ai une question. J'aurais voulu savoir de quand date le paragraphe 108 du catéchisme que vous avez mentionné. La foi chrétienne n'est pas, entre guillemets, une religion de vie. Savoir si c'est pas, si ça ne vise pas le sola scriptura. Si cette mention.
Non, il y a des guillemets, c'est une citation de saint Bernard.
Ah, d'accord. Bon.
Les guillemets. Elles y sont ou pas dans le PowerPoint que je vous ai mis?
Je me suis demandé.
Est-ce que je vous ai mis les guillemets?
Oui, on revendique un peu.
Oui,
ah oui, elles y sont.
La religion.
Oui, il y a des guillemets.
Nom d'un verbe. Voilà. Alors là, c'est saint Bernard.
Ouais.
Donc c'est le sola scriptura n'est pas visé, non?
D'accord. Non, c'était juste pour ça.
Éventuellement, et par ricochet, ça aurait pu être une différenciation avec l'islam.
Avec l'islam, hein. D'accord.
Ah oui, parce que le terme est.
C'est dans le Coran, hein, que nous sommes désignés religion du livre.
Les deux, le judaïsme et le.
Oui. Mais ceci dit, ça vaudrait le coup de poser la question à.
Parce que tel qu'elle est interprétée, hein, parce que les musulmans considèrent leur livre comme n'étant pas un livre. Contrairement au judaïsme, au christianisme, qui se pose sur le livre. En tant qu'objet, en tant que. Les musulmans vont dire que c'est pas un livre et que c'est au-delà d'un livre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat, malheureusement, qu'il n'y a pas de débat sur le Coran, dans l'islam, vu que c'est pas un livre. Excusez-moi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Déjà pas mal.
C'est vrai? Alors. La première question. Est-ce qu'il y a une rétroactivité ou une. Oui. De la définition du dogme telle qu'on la trouve dans Vatican II, on est toujours dans une démarche rétroactive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ou plutôt comme je vous l'ai dit en commentant le canon du code de droit canonique, là, dont j'ai pas aucun numéro, ben on s'en fiche, on ne peut jamais dire que c'est une vérité de foi définie si ça n'est pas manifestement établi. Et je vous ai tout de suite dit, ça, c'est redoutable. Qu'est-ce qui est manifestement défini ? Et on est toujours. Ça aussi, c'est un travail qui n'est jamais achevé. Donc on est toujours dans une démarche rétroactive. Est-ce qu'il vous faut un exemple ?
Ça peut remettre en cause la conception de
l'absolution. Alors attends, ça, c'est un autre débat. C'est la question plus loin. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on peut revenir en arrière, qu'on peut dédogmatiser un dogme ? Non. Mais ça, je vais y venir un peu plus tard.
S'il n'a pas été conçu selon. À partir du moment où. Qu'on considérait comme un dogme,
oui.
N'a pas été conçu selon ce qui est défini un dogme, a posteriori par Concile Vatican II, est-ce qu'on peut le dédogmatiser parce que justement, il ne rentre pas dans le cadre de la définition de ce qui aurait pu.
Alors, je vais vous donner. Je vais vous donner un exemple. D'abord, il faut comprendre que la définition telle qu'elle est donnée à Vatican II, elle est aussi l'enregistrement d'une manière de faire. Ça n'est pas l'élaboration d'une procédure nouvelle qui du coup s'appliquerait à partir de maintenant et peut-être rétroactivement. C'est aussi l'enregistrement, la description d'une manière de faire. Bon. Et puis, ceci dit, votre question, par certains aspects plutôt rares, mais pas inexistants, peut éveiller certains souvenirs. Côté catholique, dans le credo, nous avons ajouté procède du Père et du Fils. C'est ce qu'on appelle le filioque. Parce que et du Fils en latin, c'est filioque. Nous l'avons fait d'une manière complètement unilatérale. D'une manière qui est passée dans la liturgie avant même d'avoir fait l'objet d'un débat conciliaire ou d'une définition dogmatique, etc. Il se trouve que les catholiques ne veulent pas renoncer au filioque, parce que dans notre théologie de la Trinité, c'est important le filioque. Il se trouve qu'il y a un travail très intense avec les orthodoxes, qui alors nous en veulent beaucoup à propos de ce filioque. Il y a un travail important avec les théologiens orthodoxes, et certains théologiens orthodoxes, pas tous, il n'y a pas consensus, mais quelques théologiens orthodoxes sont disposés à admettre un sens du filioque soluble dans leur propre théologie de la Trinité. Mais côté catholique, à cause de la manière dont cela s'est fait dans l'histoire, sans passer en plus ni par un concile, ni une manière vraiment bricolée, Et à cause du scandale que cela signifie pour les orientaux, nous n'avons pas obligation de le réciter, le filioque, en particulier lorsque sont présents des orientaux. Et pour un certain nombre de célébrations papales à Rome, il n'est pas dit. Voilà. Donc vous n'avez pas une dédogmatisation, c'est-à-dire que c'est moi qui, avec trois autres confrères, on est un groupe de quatre professeurs à donner le cours sur la Trinité à Paris. On parle du filioque, parce que dans l'économie théologique catholique, c'est vraiment important. Voilà. Et on enseigne une théologie filioquiste. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'une dédogmatisation, mais vous voyez qu'il y a certaines adaptations possibles parce que, alors là particulièrement, il y avait aussi un vice de forme, et en plus de ça, un enjeu œcuménique. Voilà. Il y a des schismes à chaque concile, et donc on en a déjà fait les frais aux huit premiers. Il y en a eu huit au premier millénaire. Vous avez 17 parce que les orientaux, voilà, mais il y en a eu huit. Le huitième a une interprétation délicate entre les latins et les grecs, mais il y en a eu huit. Donc on pourrait croire que les mauvaises expériences du premier millénaire, et puis la très mauvaise expérience au XVIe siècle avec le Concile de Trente toutes ces expériences sont encore des effets aujourd'hui. Hein. Vous avez encore aujourd'hui les églises pré-calcédoniennes, comme les Coptes et les Arméniens. Donc le Concile de Chalcédoine, c'est 451. Hein. Vous avez la séparation après le premier millénaire entre la sphère latine et la sphère grecque, encore aujourd'hui, les églises catholiques latines et non latines, et les églises orthodoxes. Et puis avec le XVIe siècle, vous avez la rupture entre les catholiques et la réforme protestante. Donc c'est du lourd à chaque fois. Et donc on pourrait se dire, mais arrêtons là les frais, ne recommençons pas cette succession d'expériences désastreuses, et parce qu'à chaque fois, le prix à payer est extrêmement lourd. Ben, il y a deux réponses. La première est qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter parce que, comme je vous l'ai dit, la révélation du Nouveau Testament ne nous oriente pas seulement vers un arrière, ni même d'abord vers un arrière, mais vers un maintenant. Donc vous êtes toujours en situation de dire « et maintenant ». Et à cause de cette actualité, de ce maintenant maintenu et même source fondamentale, vous ne pouvez pas envisager que tout d'un coup on atteigne une stabilité, un seuil critique, à partir duquel, si, ce serait un seuil de cristallisation, c'est-à-dire que la chose n'est plus vivante. Voilà. Le même passage du catéchisme qui vous dit que le christianisme n'est pas une religion du livre vous dit aussi que c'est une religion du Verbe incarné et vivant. Et donc, non, il n'est pas envisageable. C'était vous la question. Hein. Non, je ne sais plus qui m'a posé cette question. Là, c'était vous. Voilà. Donc, il n'est pas envisageable d'atteindre un seuil de stabilité. Parce que, non, nous sommes dans une réalité vivante et donc instable. Actuellement, côté catholique, encore une fois, je le répète, on est en pleine instabilité. Hein. Et puis, il y a une deuxième réponse qui est... Alors, il y a des schismes, oui. Beaucoup de schismes, d'ailleurs, sont liés à des problèmes de vocabulaire qui mettent des siècles à être surmontés. C'est bien dommage, mais ça n'est pas toujours insurmontable. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que avec au moins deux églises pré-calcédoniennes, à savoir avec les Arméniens, si je ne me trompe pas, et avec les Coptes, non pas les Arméniens, avec les... Si, si. J'ai un petit doute pour les Arméniens. Avec les Coptes, je suis sûr, et aussi les Arméniens, je crois. Donc l'Église catholique a signé des accords christologiques. Donc le Concile de Chalcédoine est un concile sur le Christ, voilà, qui entérine de manière multilatérale les manières de s'exprimer réciproques. Donc il n'y a plus ici, les églises restent séparées, hein, l'unité n'est pas plénière, elle n'est pas consommée, elle n'est pas réalisée, elle n'est pas faite, mais le fait que les églises arméniennes et coptes n'aient pas reçu, accepté le Concile de Chalcédoine n'est plus un problème entre catholiques, coptes et arméniens. Pour les protestants, vous avez vu la signature très importante d'un document sur la justification, qui était pourtant le point dogmatique fondamentale de discorde au XVIe siècle. Ici, ça n'est plus un point de discorde. C'est-à-dire aussi bien côté catholique que côté protestant, Il y a possibilité d'accueillir la manière de s'exprimer de l'autre Église sur la question de la justification avec, ceci dit, le document indique une manière de coefficienter, de mettre les accents très différentes. Mais il y a, sinon surmontement total, du moins un surmontement assez large de cette question-là. Okay. Après, reste des schismes non résorbables, par exemple, résorbables même sur le plan théorique. C'est-à-dire que, par exemple, pour un catholique, avoir affaire à une entité chrétienne qui vous dit que, ou qui se prétend chrétienne, qui vous dit que le Christ n'est pas Dieu, n'est pas le Fils de Dieu, là, il n'y a pas de solution. Parce que l'objet n'est pas le même. On ne parle pas de la même réalité. Ici, la posture dogmatique consiste, encore une fois, s'enracine dans cette mise en demeure d'avoir à répondre. Et évidemment, pour parler comme ça, je parle de manière croyante. Hein, mise en demeure d'avoir à répondre à l'interpellation de Dieu lui-même. Et donc, il s'agit, avec le développement du dogme, de servir celui qui nous interpelle, c'est-à-dire de l'indiquer, si je prends une métaphore, d'avoir la bonne adresse mail ou la bonne adresse postale. C'est une mauvaise idée, parce que Dieu entend tout le monde, il a de grandes oreilles, et même si on n'a pas les idées tout à fait claires sur lui, il nous entend quand même. Mais ici, il s'agit de lui donner la réponse attendue de lui à partir de sa révélation, et donc il y a nécessité à cerner l'objet, voilà. à définir ce qu'est ce dialogue. Alors après, quand je dis ça, je m'exprime d'une manière technique, technicienne, pas d'une manière spirituelle. Je m'exprime autrement. Je peux être confronté à quelqu'un qui me dit « pour moi, Jésus n'est pas Dieu », et donc dogmatiquement, ce n'est pas solutionnable. Ça ne veut pas dire que, d'un point de vue spirituel, il ne soit pas plus avancé que moi dans une mystérieuse relation avec ce même Jésus. Il est peut-être dans son comportement plus proche de Jésus que moi, qui est une dogmatique plus assise que lui au sujet de ce Jésus-là. Et il faut bien distinguer les plans. Hein. Dire ce que je viens de dire, ce que j'ai dit précédemment, pardon, sur un plan technique, n'est pas à traduire immédiatement en termes spirituels. Vous voyez ? Je ne suis pas propriétaire de Jésus. Je suis dépositaire d'une manière de parler de lui qui est utile pour dire dans quel mystère nous sommes introduits, mais je ne suis pas propriétaire du mystère de Jésus. Et je ne suis surtout pas propriétaire de ce qu'il fait.
Si Charlie se vide, ça veut dire que je réponds bien dogmatiquement à ce dialogue engagé par Dieu, et ma réponse est dogmatique, mais je dirais elle n'est pas unique, parce que si d'autres engagent... Elle n'est pas unique.
C'est-à-dire bien sûr que non, elle n'est pas unique.
Et si d'autres engagent ce même dialogue dans la spiritualité, si tu en as ils ont aussi une réponse, alors qu'elle soit dogmatique ou pas.
Bien sûr. Bien sûr. Il y avait encore une autre question sur la... alors les trois dogmes... Bon, je pense que j'ai en partie répondu, c'est-à-dire on n'atteint pas un seuil de stabilité, donc ça continue, hein, et je vous l'ai dit, il y a Odium Espèce 22, c'est peut-être encore un autre dogme. Moi, je le pense. Hein. Bon, pour le moment, il n'y a pas consensus, mais il n'est pas impossible qu'un jour, on enseigne que Gaudium Espèce 22 a produit un dogme. On verra. Donc, je considère que ça fait partie, que les questions sur les dogmes du 19e font partie de cette question, du 19e et du 20e, hein, sur la Marie et l'infaillibilité pontificale. Pour Gnose, alors, je ne suis pas très sûr d'avoir compris la question, parce que parler d'expérience personnelle, ce n'est pas être dans le monde de la Gnose. Le monde de la Gnose, c'est vraiment l'idée d'un salut qui est une conquête de l'esprit humain. C'est se sauver, aujourd'hui, alors, en revanche, cette conception-là est extrêmement diffuse. C'est-à-dire, un bon nombre des organes émetteurs sur le thème du développement personnel, du bien-être, etc., sont en réalité des gnoses. C'est-à-dire, il s'agit, ou du transhumanisme, etc., il s'agit d'atteindre à une version de l'humain ou un équilibre personnel qui vous fait vous rendre autonome par rapport à tout besoin d'un salut venant d'un autre. Voilà. Être sauvé, c'est être réalisé dans toutes ses potentialités, voire être augmenté dans certaines de ces potentialités-là. Alors, le christianisme est tout à fait en dehors de ça. C'est-à-dire, Pareil, dans le MOOC sur le péché originel, j'ai été, parce qu'il y a des directs où je réponds aux questions des internautes, il y a eu beaucoup de questions là-dessus, et on peut dire avec une très grande sérénité, mais demain, avec le transhumanisme, vainquez la mort, vous n'avez pas le salut chrétien. Le salut chrétien ne consiste pas à devenir immortel, super costaud et méga intelligent, et à être en permanence connecté avec Google par une puce insérée dans mon cerveau, même s'il y aura peut-être des tas d'avantages à ça. Ça n'est pas ça, le salut chrétien. C'est passer de ce monde en Dieu en entraînant ce monde avec nous. C'est la réconciliation, la résolution de ce monde dans la Trinité. Donc ça n'a rien à voir avec la permanence d'une vie biologique, avec la pérennité, la pérennisation d'une vie biologique. Ok ? Ça n'a rien à voir. Et alors, en revanche, si par gnose, vous entendez expérience personnelle d'un salut qui me vient d'un quelqu'un, alors là, oui. Oui, saint Irénée a écrit tout un livre qui s'appelle « Contre la gnose au nom menteur ». Ça veut bien sous-entendre qu'il y ait une gnose qui, elle, n'est pas mensongère. D'ailleurs, Paul lui-même parle bien d'une gnose quand il parle du Christ. Et il s'agit ici, il s'agit bien d'une expérience personnelle, de le rencontrer. Mais cette expérience personnelle n'est pas ni conquête de soi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie dépendance par rapport à un objet extérieur. Ça n'est pas « mon Jésus » projeté à partir de mes attentes intellectuelles, philosophiques, spirituelles, affectives. Il s'agit bien d'un quelqu'un consistant qui a ses contours propres et qui ne sont pas plastiques. Voilà. Donc il y a bien réception d'un objet extérieur et il n'y a pas subjectivisme. Mais il y a bien expérience personnelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès Augustin, on vous dit « avoir la foi ». Ce n'est pas seulement donner les contenus corrects, c'est avoir l'acte qui vous fait adhérer à ces contenus. C'est-à-dire, et ici, cet acte est une expérience personnelle. Ce qui fait qu'un théologien peut vivre une expérience de conversion. C'est-à-dire, il peut enseigner pendant des années la Trinité ou la christologie, et un jour se mettre à fondre en larmes en cours parce qu'il comprend enfin ce qu'il dit. Ça va ? Donc en ce sens, il y a une gnose, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Ce qu'il dit.
Oui. Enfin, vous m'avez compris.
Oui.
Voilà. Le cercle, on y revient toujours avec un gain interprétatif. Est-ce qu'il faut lire chronologiquement ? Non, on n'est pas obligé de lire chronologiquement. La personne est partie ou elle est là ?
Elle est là. Ah, voilà.
Donc non, on n'est pas obligé de lire chronologiquement. En même temps, non. Mais la mise en perspective chronologique est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la mise en perspective. C'est-à-dire lire l'Ancien Testament pour un chrétien, hein, lire l'Ancien Testament sans tenir compte de la clé Jésus-Christ, c'est-à-dire sans la mise en perspective du ce vers quoi ça va, pour nous n'est pas une lecture possible ou n'est pas une lecture suffisante. Elle est possible quand on est juif. Quand on est chrétien, ça n'est plus suffisant. Et même, pour certains points, il y a des accords, du coup, entre l'interprétation de l'Ancien Testament. Pour certains points, il y a des accords entre la lecture juive et la lecture chrétienne à cause de cela. Mais même chose, lire le Nouveau Testament indépendamment de l'Ancien Testament, c'est-à-dire sans la perception du d'où ça vient, n'est pas possible non plus. Et à chaque fois qu'on l'a fait, parce que ça n'est pas parce qu'on sait qu'il ne faut pas le faire qu'on ne le fait pas, à chaque fois qu'on l'a fait, il y a eu des catastrophes.
Alors je précise ma question, est-ce que du coup, entre les quatre évangiles, il y a un ordre
non.
de lecture.
Non.
Parce que s'il y avait un gain interprétatif.
Alors, non seulement il n'y a pas un ordre, mais même quand vous faites l'histoire de la rédaction des quatre textes, il y a des passerelles considérables entre les quatre.
D'accord. Non. Même s'ils n'ont pas été écrits exactement au même moment.
Ils n'ont pas été écrits exactement au même moment, mais ils ont bénéficié de matériaux qui étaient. Pas tous communs, parce que c'est très complexe, mais il y avait une partie des matériaux qui étaient communs. Et en plus de ça, il y a eu la littérature première, seconde, troisième, la reprise, les communications orales, etc. Donc il y a des passerelles entre les quatre documents qui sont considérables. D'ailleurs, ces passerelles, pour une part, elles vous sont visibles, c'est-à-dire que les lettres de Paul sont antérieures aux quatre évangiles. Par exemple, le récit le plus ancien de l'institution de l'Eucharistie, ce n'est pas dans les Matthieu, Marc, Luc que vous le trouvez, c'est chez saint Paul, dans la première aux Corinthiens. Ça va ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière avec les protestants, etc. Bon, la personne qui vous a tenu ce propos était certainement très sincère et très bien intentionnée, mais Ça me paraît un propos erroné. Si ce propos était vrai, on n'aurait pas signé du côté, alors vraiment de la Fédération luthérienne mondiale et du côté de l'Église catholique, on n'aurait pas signé ensemble un traité commun sur la justification. Alors même que la signature de ce traité pour les luthériens ne signifie en aucun cas leur adhésion au Concile de Trente. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi il vous a dit un tel propos. C'est-à-dire une impossibilité de revenir en arrière, ça me paraît un propos non seulement très dommageablement anti-œcuménique, d'une part, enfin très isolationniste, et d'autre part, contredit par les faits. Au moins celui-là, qui est massif. Okay.
Alors je ne voudrais pas mettre parce que je citais le titre
d'accord.
du personnage.
Ah, c'est vous qui m'avez posé la question.
C'est moi qui vous ai posé d'accord. la question, donc je me soumets à un regard des autres, à ce que vous avez reçu, lors du dernier, la dernière conférence sur le protestantisme. Cette question a été très clairement abordée par lui.
C'est des dogmes successifs et que les derniers de l'Église catholique nous ont plutôt éloignés que rapprochés. Et du coup,
il a même été plus fort que ça.
Plus le temps passe, plus le rapprochement est difficile. Par exemple, vous le voyez bien, il y a extrêmement peu de choses qui séparent les catholiques des orthodoxes, et pourtant l'unité pleine n'est pas faite, parce que ça fait très longtemps que catholiques et orthodoxes sont séparés, et que se remettre ensemble, on pourrait presque faire une métaphore conjugale, hein, et que se remettre ensemble après tant d'années, tant de siècles de séparation est extrêmement difficile, mais pas simplement sur un plan technique, hein, c'est aussi sur un plan de vécu, d'incarnation des choses, d'organisation des communautés, c'est extrêmement complexe. Alors que sur un plan strictement dogmatique, ce qui nous sépare encore est vraiment... c'est très faible.
La pierre d'achoppement, c'est la question de la Trinité, point.
Non, c'est pas la pierre d'achoppement. Non, c'est vraiment l'exercice de la primauté pontificale, la pierre d'achoppement. C'est vraiment ça. Parce que le péché originel, ça n'est plus un problème, parce que, on s'est compris. Le filioque, il y a beaucoup de théologiens orthodoxes qui vous disent qu'il y a une manière de le comprendre, qu'il existe chez les catholiques une manière de le comprendre qui est celui chez les orthodoxes. En revanche, non, ce qui pose un vrai problème, c'est l'ecclésiologie, c'est-à-dire la compréhension du mystère de l'unité en l'Église, sachant que chez les orthodoxes aussi, il y a une théologie de l'unité de l'Église. Hein. Il y en a une. Et il y a, entre la théologie catholique de l'unité de l'Église et la théologie orthodoxe de l'unité de l'Église, des choses qui se recouvrent, mais pas complètement. Et là, le travail est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Plus, honnêtement, hein, il faut le dire, du côté des populations orthodoxes, les fidèles ne sont pas en faveur de l'unité avec les catholiques. Parce que vous avez depuis des siècles une pastorale qui s'est développée anti-catholique. À cause de l'histoire, hein, à cause du sac de Constantinople par les croisés, etc. Et vous ne résorbez pas des siècles de pastorale anticatholique comme ça. De la même manière que, encore aujourd'hui, je peux vous le dire, hein, on a beau avoir acté, grâce à Jules Isaac, qu'il y a un enseignement du mépris chez les catholiques qui a non pas été favorisé le nazisme, mais qui a échoué à être un facteur neutralisateur du nazisme. Et on le sait, je pense que du côté des structures de formation, etc., la chose est complètement résolue. Je vous assure que du côté des fidèles, non. Encore aujourd'hui, j'ai une de mes tantes qui est juive. Elle est allée dans un endroit chic il n'y a pas très longtemps. Elle a entendu quelqu'un dire « Je ne savais pas que les juifs pouvaient entrer ici ». C'était des bons cathos. Hein. Voilà. Donc ça n'est pas résolu parce qu'il y a des siècles d'enseignement, d'antisémitisme larvé dans le monde chrétien et qu'on ne le résorbe pas en 50 ans.
Si on s'en tient au dogme simple, oui. La religion la plus proche du catholicisme, d'un point de vue dogmatique, c'est l'anglicanisme.
C'est donc ?
C'est l'anglicanisme ?
Oui. Enfin, de la High Church.
Et on est ?
De la High Church, parce que vous avez l'anglicanisme de la Low Church, c'est très compliqué pour nous.
Restons avec le vrai sujet, c'est pas un sujet dogmatique, c'est un sujet politique, purement politique. Et c'est pour ça que moi, ce dogme de l'infaillibilité pontificale de 1870, c'est une incompréhension absolue. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt pour l'Église catholique de mettre ça à la fin du 19e, alors qu'on est vraiment en plus en une période de révolution politique, philosophique, industrielle, sociologique, incroyable, et de mettre ce mur
supplémentaire. C'est, pour moi, c'est
non, je pense que vous faites une lecture, d'abord vous faites une lecture politique, de, exclusivement politique de, du développement dogmatique, ce qui est une grille de lecture valable, hein, parce qu'il y a aussi de la politique dans le développement dogmatique, et depuis le début, et c'est une grille de lecture trop courte, c'est-à-dire qu'il y a des nécessités internes à l'économie même du christianisme. Hein, il y a une économie religieuse, un rapport religieux induit par le christianisme lui-même, ce que j'essayais de vous montrer aujourd'hui, qui en fait une nécessité interne. Et alors nous, on peut parler de dogme chez nous, je ne sais pas si on peut parler de dogme chez les anglicans, mais les anglicans eux-mêmes ont produit des évolutions qui posent aussi de leur côté un problème pour l'unité éventuelle avec les catholiques, notamment dans l'interprétation des ministères. Voilà. Et alors eux, ils vont peut-être pas dire qu'il s'agit de dogme parce qu'ils ont une autre manière de réfléchir les choses, mais eux aussi ont été dans une nécessité interne d'évolution. Voilà. Et c'était un choix politique désastreux si un jour il faut aller vers une unité avec les catholiques. On ne peut pas leur dénier une grande honnêteté dans leur évolution, c'est-à-dire on ne peut pas leur dénier qu'ils ont fait cela non pas pour verrouiller l'impossibilité d'être unis un jour avec les catholiques, mais parce qu'il y avait chez eux une nécessité interne à aller dans cette direction-là, qui est pour le coup très compliqué pour nous. Okay, donc eux aussi ont évolué. Bon. Donc c'est une grille de lecture qui existe, mais qui est trop courte, d'une part, et d'autre part, beaucoup d'anglicans, y compris de théologiens anglicans, vous disent que la grande majorité de l'anglicanisme, de la High Church, reconnaît une forme de primauté pontificale. Notamment que pour eux, ça ne fait aucun doute que quand le christianisme vous avez ça dans des textes anglicans d'aujourd'hui, hein, qui vous disent que pour eux, ça ne fait aucun doute que lorsque le christianisme doit parler d'une seule voix, c'est le pape de Rome qui doit parler. Étonnant, non? Vous avez eu l'assemblée romano-catholique anglicane, l'ARCIC, qui est une assemblée d'experts théologiens des deux parties, qui ont signé un accord sur les dogmes mariaux. Donc les dogmes mariaux de 1854 et de 1950 ne sont plus un problème. Donc, puisqu'on a signé un accord là-dessus, c'est-à-dire que les anglicans de la High Church sont prêts à accepter une certaine compréhension de ces dogmes, solides dans leur théologie, et ils sont même prêts, c'est dans le document, à dire que ça peut s'appuyer sur l'écriture. Donc, vous voyez que tout n'est pas aussi dramatique que vous le dites. Et puis, dans
c'est
le cas.
C'est dramatique, mais c'est temporellement quand même.
Ben, bien sûr. Voilà. Mais on ne peut pas. Enfin, c'est comme si vous me disiez vous avez un couple qui a divorcé. Il y en a plein autour d'eux qui sont persuadés qu'ils peuvent se remettre ensemble, mais ils n'avancent pas à leur même rythme. Vous ne pouvez pas dire à l'un des deux « ne vis plus en attendant que l'autre puisse revenir ». Ce n'est pas possible, ça. Et puis pour les anglicans, vous avez un autre problème qui est celui de la succession apostolique. C'est un problème technique. Il y a un autre problème avec les anglicans qui est celui de la succession apostolique, c'est-à-dire que quand bien même on partagerait absolument tous les... toute la même fois exactement, il y a un problème qui est que au moment des ordinations, ils sont sortis de ce que nous on appelle la succession apostolique, c'est-à-dire le fait que d'imposition des mains, vous remontez la chaîne jusqu'aux apôtres, et pour nous c'est un très gros problème. Concrètement, j'ai déjà assisté à des réordinations sacerdotales de prêtres anglicans. Honnêtement, j'y ai assisté avec des sentiments ambivalents. C'est-à-dire que je suis persuadé de la valeur de ce qu'on fait en ordonnant quelqu'un, côté catholique. Je suis moi-même un prêtre ordonné, donc j'y accorde un très très grand prix. Puisqu'il y a nécessité à réordonner, pour le moment, réordonnons. Et je ne suis absolument pas disposé à dire qu'il faudrait en tirer la conséquence que ce que fait un prêtre anglican, ça n'est rien. Ça, moi je m'y refuse. Mes sentiments étaient ambivalents. Mais c'est un très gros problème, ça.
Du coup, juste pour prolonger la question politique, ouais. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, qu'il y a une... Alors, j'ai bien dit qu'on ne pouvait pas faire la liste des dogmes, mais qu'il y a une position dogmatique infaillible de l'Église catholique romaine sur la relation politique. Je m'explique. Est-ce que la théorie des deux glaives est aujourd'hui tranchée de manière définitive et infaillible ?
Mais c'est pas un dogme, ça.
C'est pour ça que je dis la théorie. Est-ce que aujourd'hui cette question est dogmatiquement tranchée ?
Non, bien sûr que non, parce que c'est pas de l'ordre du dogme, ça.
Oui, mais est-ce que, pour le dire autrement, est-ce qu'aujourd'hui, de manière dogmatique, la relation de l'Église au temporel, l'Église, au pouvoir politique, est dogmatiquement tranchée.
Ça n'appartient pas, je ne peux pas vous répondre une autre chose que ça n'appartient pas au registre du dogme. C'est comme si vous me demandiez si, je ne sais pas moi, si, que vous dire...
La théorie de la sélection naturelle des, voilà. des espèces fait partie, ou des
formes... Mais non, la question que je vous pose, c'est...
C'est la foi, les dogmes, le dogme. L'Église peut bien se prononcer. Par exemple, l'Église, il est arrivé à l'Église de s'arc-bouter contre la chute des couronnes en Europe et même d'être hostile à l'avènement du suffrage universel. Ça lui est arrivé. Et elle pourrait continuer de prendre ce type de position. Qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, ce n'est pas de l'ordre du dogme.
Je le dis autrement.
Parce que ce n'est pas dans le champ de la foi.
C'est pas dans le champ de la foi et des mœurs.
Ah. Oui, mais du coup, et dogmatiquement,
les mœurs. Si... Les mœurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Hein. C'est une vérité à vivre.
Oui. Voilà. Là, ça, c'est pas dans le champ de l'interprétation ou de la parole. C'est même pas la foi et les mœurs.
Donc la question n'a pas de sens. Ça ne peut même pas faire l'objet. On m'a dit que vous travaillez au Parlement. Ça ne pourrait même pas faire l'objet d'une prise, d'une niche. Enfin, je veux dire. Ça ne pourrait pas même être engagé comme question dans une assemblée conciliaire.
La question, c'est comment je réussis, d'un point de vue de l'Église, à concilier ce qui relève d'une position dogmatique avec ce qui va être une loi de la République lorsqu'elles sont inconciliables. Et donc, il y a bien une
par
question.
Exemple.
Je prends l'exemple mariage pour tous.
Oui. Oui.
Le mariage pour tous. Prenons cet exemple-là, il est intéressant. C'est que la République reconnaît à tout un chacun le droit de se marier
oui.
et d'être reconnu comme étant un couple et de jouir de tous les droits, et y compris ceux d'avoir des enfants.
Oui.
Ce n'est pas conciliable, me semble-t-il, avec la conception que l'Église catholique se fait du mariage
non.
ordonné à la procréation.
Oui.
Donc, d'un point de vue dogmatique, est-ce que l'Église a réussi à concilier de comment est-ce que face, moi, par exemple, mère, je dois célébrer un mariage, mais c'est contraire à mes convictions religieuses qui disent que ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que je concilie une approche de croyant et une approche de républicain?
Est-ce que ça n'a strictement rien à voir.
Est-ce que d'un point de vue dogmatique, comment je concilie des choses qui ne sont pas conciliables?
Pas les concilier.
Mais c'est parfaitement conciliable en plus. C'est vous qui en faites une réalité inconciliable. C'est parfaitement conciliable. La preuve.
Mais c'est pourtant dans le débat.
La preuve, c'est que c'est passé. Désormais, c'est passé. La loi Taubira est passée. Et l'aventure continue de manière très positive.
Mais ça, en faisant état de leur foi.
Ah, ils peuvent faire état de leur... Après, reste sauve la clause de conscience, hein, pour tout le monde. Mais ça, c'est dans tous les cas de figure. C'est absolument dans tous les cas de figure. Après, il n'y a aucune, comment on appelle ça, aucun mot d'ordre de la part de l'Église intimant au maire de ne pas célébrer ces mariages-là. Et le débat n'a pas porté là-dessus. Le débat a porté sur l'utilisation du mot mariage dans cette loi Taubira. On aurait utilisé un autre mot, je pense qu'il n'y aurait pas eu les manifs. Et c'est là-dessus qu'a porté le débat. Et ça ne change rien, que vous dire.
L'union des homosexuels aurait fait l'objet d'un accord de l'Église.
Pas d'un accord.
Mais pourquoi voulez-vous...
À partir du moment où vous dites... À partir du moment où vous dites il s'agit ici de protéger par la loi une union de deux personnes de même sexe avec des droits qui font qu'ils aient les mêmes sécurités qu'un couple marié en termes d'héritage, en termes de toucher la retraite de l'autre quand il est veuvage, etc. etc. Oui. Je ne pense pas qu'il y aurait eu opposition.
Ah oui, hors champ des enfants.
Oui. Et en plus de ça, ici, on n'est pas dans un registre dogmatique, monsieur, on est dans un registre sociétal.
Mais je crois que je m'exprime mal.
Je vous donne un exemple. Dans ma paroisse, on a célébré les professions de foi. Il se trouve que l'une des gamines qui fait sa profession de foi a deux papas. Donc ici, la question se pose de savoir de quelle manière on gère cette situation-là. On l'a gérée de telle sorte que, par exemple, on a fait faire la lecture de la messe à l'un des deux papas, pour qu'elle se sente de plein pied avec les deux gamins. En aucun cas ici, on est en défaut par rapport à un quelconque dogme. C'est une question purement sociétale, purement pastorale, parce que je suis dans une paroisse du 5e arrondissement de Paris où ça ne choquera personne, parce que c'était important pour la gamine, parce que nous connaissons bien les deux papas et qu'aucun des deux n'en aurait fait un argument sur les réseaux sociaux pour promouvoir ou revendiquer je ne sais quoi, parce qu'on était dans un cadre où c'était tout à fait faisable et même souhaitable. On n'est pas dans un registre de dogme, on est dans un registre sociétal, pastoral. Dans une autre paroisse où j'aurais été, par exemple, si j'avais été dans une paroisse archi-bourgeoise ou au contraire très très populaire, ça aurait été beaucoup plus problématique. à cause de la vision sociétale dans, dans cette population-là de l'homosexualité. Là où je suis, ce n'est pas un problème, ça ne me choque pas. Donc on est dans une évolution, et on est dans une évaluation de conscience. Et on n'a eu aucun coup de crosse sur la tête, aucune semonce de qui que ce soit, et à titre personnel, jusqu'à un certain point, puis à partir d'un certain point, j'ai cessé pour des raisons de conviction personnelle, mais en tout cas, les premières manifs pour tous, je les ai faites. Et pourtant, c'est moi qui ai proposé qu'on fasse faire la lecture. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans un ordre de dogme, là. Et quand il y a crispation dans le débat sociétal entre l'Église, par exemple actuellement, parfois d'ailleurs cette crispation va dans le bon sens, excusez-moi, hein, mais je vais vous prendre un cas français et un cas polonais. Le cas polonais actuel, vous avez la Pologne qui se rigidifie d'une manière très inquiétante. Qui est vent debout pour lutter contre ça ? C'est l'épiscopat polonais, notamment avec le thème de l'accueil de l'immigrant. Voilà, notamment, je ne sais pas si vous le savez, mais les évêques sont en train de prendre des mesures extrêmement drastiques, puisque désormais, dans un certain nombre de diocèses polonais, un prêtre qui participerait à une manifestation de protestation contre l'accueil des migrants et en faveur de la fermeture des frontières polonaises est suspendu. Donc ça va très loin, hein, okay ? Donc il y a des crispations aussi entre la société civile et l'Église qui ne sont pas toujours, qui sont à mon avis parfois éminemment souhaitables. Ici, celle-ci est à tous souhaitable. Après, je vais prendre un autre exemple français. Donc quand il y a des points de crispation aussi, même ici, on n'est pas dans l'ordre du dogme. Ici, on est dans un ordre hiérarchique et disciplinaire, c'est-à-dire que le prêtre sera suspendu, le prêtre qui va participer, parce qu'il va y avoir des prêtres réfractaires. Donc il va y en avoir qui vont être suspendus. Ils ne seront pas suspendus au titre du dogme, ils seront suspendus au titre de la discipline et de la hiérarchie. Par exemple, moi en France, comme prêtre, je n'ai pas le droit de me présenter à des élections. Je n'ai pas le droit d'avoir un mandat électoral. Ça n'est pas un dogme, c'est une discipline. Et l'Église, demain, peut changer la vie. Maintenant, un cas français. Le mariage pour tous. Le point de débat a essentiellement porté, en tout cas, du côté de la hiérarchie de l'Église sur l'utilisation du mot mariage dans la loi Taubira. Est acté, est enregistré le fait que désormais, ce que la société civile appelle mariage et ce que nous appelons mariage, ce sont deux réalités très différentes. En revanche, ce que je déplore, c'est que cette crispation sociétale a induit du côté du pouvoir politique une crispation telle qu'on est dans une situation où je ne peux pas dire sans risque, ce que je vais vous dire maintenant, à savoir que je ne peux pas dire que l'union de personnes de même sexe est la même chose que l'union de personnes de sexe différent. Dire ça aujourd'hui, c'est on peut me faire un procès.
Parce que légalement...
Parce que légalement, on est dans une, dans une police de la pensée. Ben,
non,
et bien sûr que si.
Bien sûr que si.
Et dire ça, ça n'est pas dire à un maire ne mariez pas, etc. Ça ne veut pas dire un homosexuel ne peut pas faire la lecture à la messe. Ça veut dire qu'on est dans une normativité, on est dans un registre qui est pas loin d'un certain dogmatisme.
Le mariage, d'un point de vue juridique, par contre.
Ici, je dois le penser.
Dogmatiquement, c'est pas le même.
Ici, on me demande de penser que c'est la même chose. On ne me demande pas de me soumettre à des dispositions légales. Pour certaines personnes, on me demande de penser certaines choses. Ah ben si.
Il faut juste faire une chose.
Ah si.
Que l'Église catholique écrise mariage avec un grand M. Voilà. Oui. À un moment donné, je pense que les choix, la différence sémantique dont vous parlez.
C'est une pente que l'on observe dans le pouvoir politique français, qu'il soit de gauche ou de droite. De plus en plus en France, le pouvoir politique nous dit ce qu'a été. Le pouvoir politique décide de ce qu'a été l'histoire. Et décide de ce qu'il faut penser. De plus en plus.
Je ne vais pas entrer dans le débat là-dessus.
C'est vous qui l'avez lancé,
La question que je posais était vraiment une question de principe et non pas une question de pratique. Et vous avez répondu sur le fait, effectivement, que le dogme, en tout cas tel que je le comprenais, en fait, n'était pas une question dogmatique, mais une question pratique. Enfin, de manière dont l'Église s'approprie les choses et que, effectivement, les questions que je pensais avoir relevées du dogme ne relevaient pas du dogme. J'ai bien compris sur la question de la discipline. Je clôt juste le débat, mais c'est juste pour dire que dans le débat sur le mariage pour tous, si j'ai pris cet exemple-là, c'est parce que les arguments dans l'hémicycle, je ne parle pas des arguments en dehors, je parle des arguments portés par les représentants politiques, étaient des arguments qui mettaient en avant ce que j'ai bien compris, ne l'est pas, mais le dogme catholique.
par maladresse, etc. Mais c'est ce moule-là, c'est ce moule-là qui était employé.
À part la caricature, à part la caricature Christine Boutin, j'aimerais bien que vous me donniez vos sources.
Parce que,
ouais, je veux bien. Et surtout, à ce moment-là, il faut faire le travail jusqu'au bout et aller voir. À ce moment-là, il faut faire le travail jusqu'au bout et aller voir les déclarations officielles faites par le cardinal André 23, la conférence des évêques de France.
Mais c'est pour ça que
et vous n'y lirez pas ça.
Mais c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que je ne comprenais pas les arguments qui pouvaient être avancés au nom d'un dogme que je ne retrouvais pas par ailleurs. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que le mot, il y a une crispation sur le mot mariage, la crispation sur le mot dogme est extrêmement importante, puisque tel que c'était présenté, c'était le simple fait que vous reconnaissez ce droit est un non-sens, est une négation, etc. Et j'ai bien compris que ça n'avait pas de sens d'un point de vue dogmatique catholique, mais c'était présenté comme ce n'est pas compatible et donc vous enterrez la civilisation chrétienne. Et voilà le raccourci qui était fait.
Mais ça dans l'hémicycle. Ça doit être responsabilité à nous. Hein,
mais c'est pour ça que je pose la question là maintenant.
Ce débat est très important parce que nous sortons d'une formation, on ne prend plus des vessies pour des lanternes, on ne prend plus les déclarations de gens sectaires ou allumés, etc.
Ou raccourcis.
Vous voyez, moi je crois que là vraiment ça nous appelle tous, c'est une responsabilité importante. Conférence des évêques de France, on regarde quand il y a un problème, on va regarder effectivement les sources.
Et ce qui est intéressant, c'est aussi de lire le. Donc, dans la conférence des évêques de France, vous avez une commission famille et société qui, sauf erreur de ma part, est présidée par Mgr Brunin, je crois, qui a produit un document très important après la séquence Mariage pour tous, qui a été une séquence douloureuse, y compris en interne. Et donc, vous avez un document très important qui dit, attention, la manière dont, dans les communautés chrétiennes, une certaine militance s'est engagée à créer des blessures très profondes dans beaucoup de communautés chrétiennes, il est impératif de les guérir, ces blessures. Je dis la même chose autrement. En aucun cas, il n'est possible de faire de la participation ou de la non-participation à ces manifestations un critère d'identité catholique. C'est exactement ça que ça veut dire. Et là, vous avez un évêque président de la commission Famille et Société qui s'exprime légitimement et officiellement.
Si je me permets une anecdote, j'ai fait des campagnes politiques locales et très souvent des milieux catholiques un peu orthodoxes, on va dire, venaient me demander de signer des documents pour dire que j'étais contre l'avortement, contre le mariage, pour tous, etc. etc. Et j'étais extrêmement choquée par ce genre de choses, parce que on vous demande de vivre un acte de foi qui ressemble à rien, qui vous empêche d'être élu normalement, parce que dès lors que vous signez des documents comme ça, vous êtes immédiatement pénalisé. Je vais faire très attention avec les enjeux de ce.
Non, oui, tout à fait.
L'utilisation politique dans les lieux.
L'utilisation, voilà.
Depuis la nuit des temps, c'est pas le mariage pour tous qui l'a révélé. Voilà, par contre, la question.
L'utilisation politique du religieux. Oui, mais je pense malheureusement que l'inverse existe parfois aussi.
Dans les deux sens, par contre, la sémantique, je vous propose de continuer à viser, échanger à table.